Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Génération Écologie. Nous sommes le 26 novembre 2024 et on se retrouve pour parler climat et adaptation avec Vivien Despouès, Juliette Noël et Gonéry Le Cozané. Climat, plus 4 degrés en France, est-il possible de s'adapter ?
Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans cette audition publique organisée par Génération Écologie. C'est une audition qui est ouverte à toutes et tous et je tiens à vous partager notre joie de vous voir si nombreux ce soir. On devrait être rejoint par encore pas mal de personnes puisqu'il y avait plus de 300 inscrits tout à l'heure. Génération Écologie, on travaille depuis 2018 sur la résilience face à ce qu'on voit déjà du changement climatique et qui est déjà irréversible. Et dans le contexte des multiplications des catastrophes climatiques qu'on a pu voir, qu'on a pu sentir avec ce qui s'est passé notamment à Valence récemment, et suite à ce que le gouvernement a présenté comme plan national d'action contre le changement climatique, on pense qu'il y a effectivement beaucoup à dire. Et donc, je suis ravie de pouvoir céder la place à Alexandre Florentin, qui a fait un travail énorme à Paris, notamment sur son projet Paris à 50 degrés, qui donne beaucoup à voir de ce que pourrait donner le monde demain. À toi, Alexandre.
Merci Nina Géron, Nina qui est directrice en charge du développement pour Génération Écologie. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Comme le disait Nina, j'ai eu la chance de pouvoir présider un travail qui s'est appelé Paris à 50 degrés, lié au fait que je sois élu au Conseil de Paris. Je travaille sur les questions climat sur le changement climatique depuis une quinzaine d'années et je vous avoue que quand j'ai commencé à étudier ces sujets-là, je ne pensais pas avoir seulement 38 ans l'année où en moyenne mondiale on aurait atteint plus 1,5 degré de réchauffement climatique par rapport à la période pré-industrielle à l'échelle mondiale. C'est ce qui est en train de se passer sur l'année 2024, vous l'aurez compris, avec son lot de multiplication de manifestations visibles que vous avez toutes et tous en tête, indéniablement, vous encore plus puisque vous êtes un public qui s'intéresse à ces questions, mais sachez que 7 Françaises et Français sur 10 disent avoir vu sur leur territoire des manifestations visibles du changement climatique, sachant qu'il y en a qui sont certaines qui sont moins visibles que d'autres. En réponse à ce climat qui change déjà, le gouvernement vient de publier un plan national d'adaptation au changement climatique dans sa troisième version. Peut-être dans la soirée, on parlera soit du PNAC, puisque c'est l'acronyme, soit juste du Plan national d'adaptation. Il vient de sortir après de nombreux mois d'attente. Hein, sa sortie, elle a été repoussée à la fois à cause des élections européennes et puis après de la dissolution. Et il inclut notamment, et on va en discuter ce soir, une trajectoire de référence, 5 axes de travail et 51 mesures. L'objectif pour Génération Écologie ce soir, c'est de discuter avec trois spécialistes reconnus de l'adaptation de ce qu'il y a dans ce plan national d'adaptation, ce qu'il n'y a pas, ce qu'on pouvait peut-être espérer de plus pour plus généralement nous aider à penser cette adaptation avec une grande question, hein, est-ce qu'on peut vraiment s'adapter à ce qui est décrit dans ce plan? Si oui, comment faire? Quels sont les choix qui sont devant nous? Quels sont les non-dits dans ce plan? Je précise que les trois personnes que je vais vous présenter maintenant qui ont accepté de répondre à notre invitation sont indépendantes de Génération Écologie. C'est, comme le disait Nina, une soirée qui est ouverte à des gens qui sont membres et aussi à des gens qui sont non membres. Sans plus attendre, puisque vous êtes là comme moi pour les écouter tous les trois, on a le plaisir d'accueillir ce soir Juliette Nouel, qui est créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique et qui nous parlera notamment, mais pas exclusivement, de ce qu'elle voit sur le champ de l'adaptation, du fait de former, d'informer, de sensibiliser autant de personnes grâce aux ateliers que j'ai pu tester dans une version rapide avec Gonéry cet après-midi. Je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup, c'est un super outil. On reçoit aussi, on a le plaisir d'accueillir Vivian Despoues, qui est chercheur spécialiste des politiques publiques d'adaptation. Et il travaille chez I4C, qui est un think tank spécialisé dans les questions au croisement de l'économie et du climat. Et enfin, Gonéry Lekozanet, qui est chercheur au BRGM, spécialiste, tu me disais cet après-midi, spécialiste des risques côtiers, notamment, peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus, co-auteur du GIEC et membre du Haut Conseil pour le climat. Alors, sans plus attendre, donc pour que vous sachiez toutes et tous, le format, ça va être 10 minutes de propos par chacun et chacune de nos trois intervenants, et puis des questions-réponses, soit de mon fait, soit de votre fait. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, je l'ai sous les yeux en parallèle, et donc ça nous permettra d'avoir un échange dynamique. Donc, n'hésitez pas aussi à indiquer autre chose que utilisateur de Zoom comme nom dans le chat. Comme ça sera plus facile de faire référence à votre question par la suite. Voilà, sans plus attendre, Gonéry, tu as 10 minutes, mais j'ai une première question pour te lancer. Voilà, ce PNAC, il commence par nous parler d'une trajectoire de réchauffement monde, d'une trajectoire de réchauffement France. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que ça veut dire que l'avenir est écrit? Quelle certitude on peut avoir par rapport à ça? Quel doute? Voilà, la parole est à toi et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et je vois que tu as des slides à nous présenter. Je te
Ouais.
laisse la parole.
J'ai très peu de slides, mais merci de cette invitation. Et donc, effectivement, je ne suis pas du tout engagé politiquement, mais enfin, comme j'ai beaucoup critiqué les Républicains qui invitent des climato-sceptiques à leur journée de formation, forcément, j'apprécie quand vous invitez des experts sur ces sujets-là.
Ben voilà.
Et donc, du coup, je vais vous expliquer d'où vient cette trajectoire d'adaptation au changement climatique, donc la TRAC, qui est intégrée en fait au plan national d'adaptation au changement climatique et sur laquelle en fait il y a eu une consultation sur cette trajectoire d'adaptation au changement climatique il y a un peu plus d'un an. Donc avant cette consultation qui est en cours sur le plan lui-même aujourd'hui en fait. En fait, la TRAC, c'est on va s'adapter à 4 degrés de réchauffement climatique. 4 degrés en France. En réalité, c'est 3 degrés en réchauffement global. À quoi correspondent ces 3 degrés? En fait, ces 3 degrés, ben, ça correspond finalement en fait aux politiques publiques qui sont considérées comme étant annoncées en place par les États. Ça vous amène à peu près à 3 degrés de réchauffement climatique. Alors évidemment, après, on peut distinguer les politiques publiques qui sont annoncées, celles qui sont, disons, en place, celles qui sont annoncées mais qui seront mises en place sous condition que d'autres États mettent en place les politiques publiques, etc. Donc vous pouvez avoir toute une variété en fait de scénarios de réchauffement en 2100, compte tenu des différents engagements qui ont été pris par les États. Mais en gros, 3 degrés de réchauffement climatique, ça vient de là, ça vient des engagements des États. Donc là, ce que vous voyez à gauche, finalement, bah, c'est la trajectoire en orange, en fait. Donc vous voyez, le réchauffement climatique, il est déjà de 1 degré 3 en 2023 par rapport à la période pré-industrielle. Alors, on disait 1,2 degré à la sortie du rapport du GIEC parce que c'était une moyenne entre 2010 et 2019. Maintenant, on est à 1,3 degré au-dessus de la période pré-industrielle. Et bah, on sait qu'il va se poursuivre. Et en fait, le fait d'avoir sélectionné une trajectoire d'adaptation qui nous amène à 3 degrés en 2100, ça ne veut pas dire qu'on démissionne sur les accords de Paris. Les accords de Paris restent valables. On a toujours l'ambition, en fait, de réduire les émissions. Du moins, la France contribue à une stratégie nationale bas carbone qui vise, en fait, à atteindre bah, finalement le net zéro relativement rapidement pour pouvoir en fait contribuer à ce qu'on puisse stabiliser le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés comme prévu par les accords de Paris. Mais on constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement qui nous amène à stabiliser le climat en deçà de 2 degrés. Donc on choisit cette trajectoire pour l'adaptation. Donc évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est que là, ce que vous avez à droite, ce sont les émissions de gaz à effet de serre, qui correspondent en fait à un scénario qui permettrait de stabiliser le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degré. Donc en fait, c'est une baisse drastique et immédiate des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que en fait, si on se focalise sur le dioxyde de carbone,
On émet à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 par an dans le monde, en fait. Et donc, il faudrait diviser par deux les émissions d'ici à 2030, c'est-à-dire dans les 6 prochaines années, et puis atteindre le net zéro vers le milieu du siècle. Le net zéro, c'est la contrainte géophysique. C'est en atteignant le net zéro, c'est-à-dire on n'émet pas plus de carbone dans l'atmosphère que les écosystèmes et d'autres technologies qu'on pourra mettre en place ne peuvent en absorber. Eh bien, en fait, ce net zéro, c'est ce qui va permettre de stabiliser le réchauffement climatique. Et en fait, si vous voyez les politiques publiques en place en 2020, ben en fait, elles ne permettent pas d'amorcer cette baisse drastique et immédiate des émissions, elles permettent que de stabiliser, en fait, les émissions. Et c'est pour ça qu'on va au-delà de 2 degrés. Donc, le 4 degrés France ou 3 degrés global, en fait, voilà, nous, on parle en global, hein, donc c'est 3 degrés, en fait, hein, le scénario d'adaptation, il vient de là. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir plus que 3 degrés? Ben, en fait, oui. Déjà, si les politiques qu'on considère comme étant mises en place, si on revient dessus, effectivement, on aura plus de réchauffement climatique. Donc, on ne peut pas tout à fait exclure, on peut pas exclure d'être au-dessus. On ne peut pas l'exclure non plus parce que, en fait, pour un certain volume d'émissions, pour une certaine quantité d'émissions, on ne sait pas exactement quel sera le niveau de réchauffement. Il y a une certaine incertitude sur le niveau de réchauffement pour des émissions données. Et en fait, pour une sensibilité du climat aux émissions qui serait plus forte dans les valeurs hautes en fait de ce qui est projeté, ben en fait on aurait un peu plus que 3 degrés. Alors par contre, c'est vrai que dans les bonnes nouvelles, on peut dire que le scénario qui était considéré comme le business as usual en 2015 lors de la sortie du cinquième rapport du GIEC, celui qui nous amènerait à 5 degrés en 2100, celui-là, on peut considérer que d'une certaine manière, il est probablement derrière nous. En fait, il est probablement évité. Grâce au fait qu'on a déjà évité des émissions de gaz à effet de serre au cours de la dernière décennie. En fait, on estime qu'au niveau global, on a évité entre 2 et 6 milliards de tonnes de CO2 par an, en fait, qui sont grâce au développement notamment des renouvelables un peu partout dans le monde. Donc voilà d'où viennent ce scénario d'adaptation. Et je dirais, en fait, le fait de choisir un seul scénario d'adaptation pour s'adapter au réchauffement climatique, donc c'est encore une fois, ce n'est pas une démission sur l'atténuation, c'est vraiment un scénario pour l'adaptation. C'est un peu original dans le paysage international, quoi. En général, ce que font les pays qui ont des scénarios, par exemple la Grande-Bretagne, en fait, a un jeu de scénarios qu'il met à jour régulièrement à chaque sortie de rapport du GIEC depuis au moins 2008, c'est les UK Climate Projections. Ben en fait, ils choisissent plutôt tout un panel de scénarios pour différents utilisateurs. Ce qui veut dire qu'en gros, quelqu'un qui va avoir un horizon de décision à 10 ans, 20 ans, va regarder un scénario standard sans regarder très loin. Et puis, un opérateur d'infrastructure critique, voilà, on pense beaucoup aux centrales nucléaires, évidemment, lui, il va regarder des scénarios plus lointains et puis des scénarios plus pessimistes parce qu'en aucun cas, il peut accepter qu'il y ait des dommages sur ses infrastructures. Alors, je dirais que le choix d'un scénario unique, c'est pas standard, mais ça a un avantage, c'est l'avantage de la clarté. C'est-à-dire qu'en gros, tous les acteurs ont un référentiel sur lequel, auquel se rattacher. Il y a quand même plusieurs difficultés. La première chose, en fait, c'est que quand on dit on s'adapte à 3 degrés de réchauffement climatique, ben, en fait, 3 degrés, c'est en 2100 en réalité. Mais en fait, les États, les politiques en place ne stabilisent pas le réchauffement climatique en 2100. On sait que le réchauffement, il va continuer au-delà. Il va continuer au-delà si les politiques publiques, en fait, qui sont annoncées sont mises en place, parce qu'on n'atteint pas le net zéro. Donc, quelque part, en fait, c'est pas, enfin, il y a un horizon temporel au-delà duquel, si on suit les politiques publiques en place, ben, en fait, on va dépasser le 3 degrés, quoi. Donc là, on a un problème. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que ne pas dépasser 3 degrés, ça va nécessiter en fait quand même des transformations assez majeures en fait dans l'énergie, le transport, l'urbanisme, l'agriculture quoi. Donc c'est pas du tout un business as usual, c'est pas quelque chose en fait, c'est quelque chose qui va nécessiter des transformations extrêmement importantes et puis elles sont mises en avant dans les rapports du GIEC, dans les rapports du Conseil pour le climat, etc. Et puis l'autre problème aussi qu'on voit pas trop, c'est on a des limites à l'adaptation qui seront atteintes à 3 degrés, ça on le sait. On sait que par exemple, on atteint déjà des limites à l'adaptation dans l'agriculture, en fait, avec des agriculteurs qui sont dans des situations où ils peuvent, enfin voilà, ils rencontrent des limites qui sont liées au modèle économique dans lequel ils se retrouvent. Ça c'est une limite qu'on appelle une limite souple à l'adaptation, mais on a aussi des limites dures. Ben voilà, au-delà de 2 degrés, on pense qu'on a 99% des coraux qui sont des coraux tropicaux proches de la surface, là, qui sont morts, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, et enfin, dernière chose, et ça va peut-être faire le passage vers les autres présentations. En fait, la trajectoire d'adaptation, le fait d'avoir choisi 3 degrés de réchauffement climatique monde, donc 4 degrés France, bah, ça dit rien des mesures qu'on va effectivement mettre en œuvre, en fait. Et ce n'est pas le choix d'une trajectoire de référence qui va choisir si, pour l'agriculture, par exemple, on va privilégier le stockage d'eau ou, par exemple, l'agroécologie. L'agroécologie qui est présentée comme une solution d'adaptation dans le rapport du GIEC. Ce n'est pas le fait d'avoir choisi 3 degrés qui va définir si on va faire de la relocalisation dans les zones côtières ou de la protection. Et plus vraisemblablement les deux. Donc il y a quand même une. En fait, au-delà du choix de la trajectoire, c'est en fait la trajectoire est peut-être un référentiel technique pour des professionnels. Et le plus important, c'est quelles sont les mesures qu'on va mettre en œuvre. Et ça, c'est ce qu'on aurait bien aimé lire dans le plan national d'adaptation au changement climatique.
Alors ça, on y reviendra. Mais est-ce que tu as la moindre idée de pourquoi le gouvernement français a fait un choix différent des autres pays européens et d'avoir une seule trajectoire d'émission?
Ouais. Bah, je pense que c'était vraiment cet objectif d'avoir de la simplicité en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde se réfère à la même trajectoire. Hein. Et donc, en fait, on a. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les documents réglementaires, des choses qui sont extrêmement strictes dans lesquelles on doit prendre en compte le réchauffement climatique, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a beaucoup de choses incitatives dans les documents d'urbanisme, les SRADET, les PCAET, etc. Mais en fait, le seul endroit où. On voit vraiment comment on prend en compte le réchauffement climatique. C'est l'élévation du niveau de la mer, c'est les plans de prévention des risques littoraux, où en fait on a un scénario, une tempête en 2100 avec 60 cm d'élévation du niveau de la mer. Qu'est-ce que ça donne? Et puis bah, si ça inonde très loin, on peut rendre certaines zones inconstructibles en fait. C'est vraiment la... Alors il y a des petites choses en fait dans la forêt, mais c'est pas toujours très très bien fait. Et puis d'ailleurs, même sur le niveau de la mer, la réalité, quand vous regardez, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à ne pas appliquer les 60 cm, en fait, hein. Mais en gros, l'idée, ce serait quand même de dire, bah, par exemple, pour les précipitations intenses, donc les inondations par ruissellement, ça c'est un effet du réchauffement climatique, vous avez une atmosphère plus chaude, il y a plus de précipitations intenses, ben, à un moment, on devrait avoir une consigne dans les plans de prévention des risques inondations qui nous conduisent en fait à réaliser de nouvelles cartes. Pour les inondations par ruissellement, en fait. Voilà. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes secteurs qui vont être affectés par des inondations par ruissellement que celles qui vont être affectées par les inondations par débordement de cours d'eau. Voilà. Typiquement, 2016 dans la région parisienne et puis dans le Loiret, bah, il y a des assureurs comme Telem, par exemple, dans le Loiret, qui étaient extrêmement exposés dans le Loiret et qui ont vu arriver cet événement de pluie intense là, de mai-juin 2016. Sans l'avoir du tout anticipé, en fait. Et c'est ce genre de situation qu'on voudrait être en mesure d'anticiper en choisissant un scénario à 3 degrés.
Et dernière question, Gonéry, avant de passer la parole à Vivian. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur. Donc là, on parle 4 degrés France, 3 degrés monde. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, dans les zones géographiques? Parce qu'il y a une critique que moi, j'ai beaucoup entendue. C'est qu'aussi cette trajectoire-là, elle fait comme si on n'avait pas, par ailleurs, un reste du monde. Enfin, ça pose pas tellement la question de est-ce que. 3 degrés monde, c'est en fait un monde qui est complètement instable. Et donc, même si nous, on arrive à faire des choses en France, en fait, le niveau de chaos géopolitique que ça crée, il est inconcevable.
Alors, je dirais en fait, dans le rapport du GIEC, il y a des sections qui n'ont pas retenu beaucoup l'attention, qui portent effectivement sur les risques interrégionaux. Donc, par exemple, dans le chapitre 13 sur l'Europe, c'est la section 9, en fait, les risques climatiques se propagent entre régions à travers des vecteurs qui sont par exemple le commerce, la finance, notamment à travers le système d'assurance et puis voilà, la réassurance, etc. Et puis également en fait les écosystèmes et puis tout ce qui est vecteur de maladies, etc. Et puis l'alimentation, voilà. Donc ça, c'est les quatre vecteurs principaux de propagation de risque. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que quand même ces phénomènes de propagation de risque, en fait, il y a des risques indirects. Alors dans les écosystèmes, il y a aussi, enfin entre guillemets, il y a les gens en fait. Donc les gens, c'est l'immigration, etc. Mais là-dessus, rien n'est écrit en fait. C'est-à-dire que autant les risques indirects financiers, on voit bien que ça se propage vite. On a des exemples historiques, par exemple les inondations qu'il y a eu en Thaïlande en 2010. On voit qu'il y a un facteur 2 ou 3 entre les risques directs là-bas et puis les impacts globaux. Autant sur l'immigration, par exemple, c'est un sujet qui est complètement, comment dire, qui est extrêmement maltraité en fait, parce que En fait, aujourd'hui, on a très peu de migrations climatiques qui sont liées, en fait, qui sont internationales. C'est plutôt des migrations à l'intérieur de régions, dans des, en fait, en réponse à des problèmes, en fait, qui sont liés à l'eau, qui sont liés à la disponibilité en eau, à l'agriculture, etc. Et en fait, ce que dit le GIEC là-dessus, c'est ce qu'il faut éviter, c'est les mobilités forcées, parce que les mobilités forcées, forcément, s'accompagnent de drames humains et de plein de choses. Et puis l'immobilité forcée, c'est-à-dire obliger les gens à rester à des zones vulnérables. Mais il n'y a aucun jugement de valeur sur en fait le fait que certaines personnes veulent migrer et que c'est voilà. Donc je dirais en fait là-dessus il n'y a pas un scénario si vous voulez d'effondrement qui est décrit par le GIEC. Vous avez différents scénarios. Vous avez cinq scénarios SSP 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a deux qui sont quand même des scénarios très fortement inégalitaires. Les SSP en fait c'est les 3 et les 4. C'est soit à l'intérieur des États, soit à l'intérieur des États et entre les États. Mais en fait, là-dessus, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas du tout écrites, en fait. On sait qu'on augmente les risques en augmentant le niveau de réchauffement. Voilà. Moi, je pense que, en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le choix de la trajectoire d'adaptation, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui est un document technique à l'attention des professionnels qui vont faire des plans d'adaptation. Et ce qui est
D'accord.
important, ce qui relève du débat public, c'est les mesures d'adaptation qu'il y a dans le plan, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui est le sujet principal.
D'accord. Et notamment, ça permet aussi de. Parce que je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce qu'en fait 2100, c'est trop lointain et ça ne parlera pas au grand public? Est-ce qu'il fallait parler de 2050? Est-ce qu'en fait il faut voir au-delà? Et en fait, tu viens d'apporter une réponse en disant attention à bien différencier à qui on s'adresse. Et ça fait une très belle transition pour Vivian. Vivian, comme je le disais tout à l'heure, tu es chercheur chez I4C. Tu travailles quotidiennement sur les questions de politique publique en lien avec enfin, des politiques publiques d'adaptation. Comment tu as reçu ce PNAC? Je sais que tu l'attendais depuis longtemps. Et quel regard tu portes et peut-être aussi, bon, le PNAC, c'est pas la panacée, c'est pas 100% des politiques publiques sur le sujet. Comment est-ce qu'on doit naviguer là-dedans?
Bonsoir à toutes et tous. Merci pour l'invitation, merci pour la question. Peut-être effectivement pour situer un petit peu avec quelle perspective je vais répondre à la question. Donc I4C, on est un organisme indépendant. Il se trouve qu'on a été pas mal associés à la préparation du PNAC. On a été consultés comme beaucoup d'autres à différents moments et on a aussi travaillé à des éléments de chiffrage des coûts de l'adaptation. Donc, j'ai suivi le processus d'assez près, sachant que nous, notre posture, c'est de travailler avec les gens qui sont en responsabilité et en discutant, en gardant des canaux ouverts avec tout le monde. Donc, je vais peut-être partager une lecture du PNAC qui va être en partie critique, mais en partie moins aussi. Je compte sur la discussion pour la partie critique également, sachant que voilà, ça n'empêche on reste totalement. Libre de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut penser de ce document et que, voilà, à titre personnel aussi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de marge de manœuvre, un peu plus d'ambition politique à des moments. Ceci étant dit, pour répondre à la question, je vais commencer par un petit exercice très simple de verre à moitié vide, verre à moitié plein, ou plutôt verre à moitié plein, verre à moitié vide,
Juste,
sur...
Vivian, comme tu as tendu une perche, quand tu dis que à un des moments, tu aurais aimé plus d'ambition politique, il va falloir que tu nous dises à quoi ça aurait pu ressembler, hein, à un moment
Oui,
donné. Merci.
c'est prévu. Côté verre à moitié plein, je pense qu'il y a quand même un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est vraiment nouveau dans ce plan et qui fait le pont direct avec ce que Gonéry vient de présenter, c'est cette trajectoire de réchauffement de référence comme hypothèse de base. Parce qu'il faut quand même se rappeler que jusqu'à maintenant, on se contentait de raisonner en termes d'adaptation comme si la seule éventualité, c'était qu'on réussisse la transition de la manière la plus ambitieuse et dans les temps. Et on ne regardait pas les autres éventualités. Le fait d'avoir cette hypothèse de base, ça veut quand même dire qu'on considère que ça pourrait ne pas arriver, ne pas se passer aussi bien que prévu. Et surtout, c'est un vrai changement dans le fait qu'on parle de se préparer à des évolutions du climat en utilisant des hypothèses qui ne sont pas fondées sur rien, qui sont fondées sur les projections scientifiques et qui sont beaucoup moins
absurde, entre guillemets, que l'hypothèse qu'on prenait dans beaucoup de politiques publiques jusqu'à maintenant, qui était de considérer que le climat continuait à rester stable et à ressembler à ce à quoi il a ressemblé dans les 20, 30, 40 dernières années. Donc là, déjà, la traque, au-delà de l'hypothèse qui est retenue, des horizons dont on pourrait discuter, continuer à discuter, elle passe un petit cliquet qui est quand même de dire enfin raisonnons avec des projections. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas totalement neutre. Le deuxième élément, c'est exactement celui que Gonéry mettait en avant, qui était que ça a débloqué, ça je l'ai observé dans les dynamiques qui se sont enclenchées dans les derniers mois, le fait d'avoir une hypothèse commune a mis des gens au travail autour d'un cadre lisible. Et au final, je pense même, alors Gonéry disait, il y a un côté document technique pour les professionnels qui travaillent, je pense que le petit déclencheur aussi politique de dire on a une hypothèse, on peut travailler en se comprenant, n'a pas été neutre non plus. Du côté du verre à moitié plein toujours, il y a eu des vraies dynamiques enclenchées à pas mal d'endroits dans les 18 derniers mois qui ont été les mois de préparation de ce document. C'est pas un document qui a été préparé totalement en chambre. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont pris très au sérieux le fait de commencer à se poser ces questions. Je pense par exemple aux gestionnaires d'infrastructures, mais aussi à pas mal de bouts de l'administration d'État. Alors ça reste des cercles restreints qu'il va falloir élargir, je vais y revenir. Mais cette logique, qui est un peu celle qui précède à tout le document, de se poser systématiquement la question du changement climatique, d'avoir ce réflexe adaptation, c'est un terme qu'on retrouve dans le PNAC, commence quand même à infuser, y compris chez des acteurs pour qui, comme le ministère de l'Économie ou le ministère de l'Intérieur, chez qui ce n'était pas quelque chose d'hyper évident de trouver des interlocuteurs il y a encore quelques mois. Mon dernier point côté verre à moitié plein, c'est que, je ne sais pas si vous avez ouvert le document, au premier abord, il paraît quand même être une sorte de liste à la Prévert de beaucoup de mesures dans tous les sens, dont certaines ont l'air d'être des petites mesures pas très ambitieuses. Je pense que comme première étape, compte tenu de où on en est secteur par secteur, il couvre quand même tout un tas de choses qui étaient vraiment nécessaires. Et je pense que toutes ces premières mesures sont vraiment, dans beaucoup des secteurs, le premier pas dont il y avait besoin. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui, quelque part, en fait un document assez pragmatique de premier jalon. Je passe de l'autre côté du tableau. Première étape, mais quid des étapes 2, 3, 4, 5? On peut regretter que le document soit quand même un peu myope et qu'il donne assez peu de jalons sur la suite. Je prends un exemple, il y a des mesures, par exemple, sur l'adaptation du bâtiment, qui disent il va falloir regarder ce que ça veut dire de faire évoluer la réglementation thermique pour, dans les prochaines constructions et rénovations, prendre en compte l'évolution du risque lié aux vagues de chaleur. Certes, c'est effectivement la première étape. Par contre, le calendrier de renouvellement, enfin de modernisation de ces normes, on le connaît. Le PNAC n'ancre pas que dès le prochain cycle, il va falloir mettre à jour en intégrant les résultats des actions qui sont prévues par le PNAC. A priori, c'est des choses qu'on aurait pu y voir dès maintenant, ce qui peut permettre de formuler la critique. En fait, peut-être qu'on manque un peu de vision de quel type d'adaptation on veut, ce qui rejoint aussi un peu ce qui était dit précédemment, mais je vais y revenir. Mais du coup, surtout, nous, on aura attendu, en tant qu'expert technicien un peu de ce sujet, quelques précisions sur la suite du processus. Qu'est-ce qui va être normatif, qu'est-ce qui ne va pas l'être, qu'est-ce qui va devoir passer par la loi, qu'est-ce qui ne va pas devoir passer par la loi. Quelles vont être les redevabilités? Là, on peut compter, et c'est une voie, que sur le fait qu'il y ait des gens qui vont rester mobilisés, et donc on l'espère du côté de la société civile, du côté des parlementaires, du côté de tout un tas d'acteurs, pour demander des comptes sur les progrès de ces mesures-là. Il y a des choses, par exemple, sur je sais pas, les infrastructures critiques. Bon, aujourd'hui, il va falloir voir est-ce qu'on va demander des comptes aux patrons des grands gestionnaires d'infrastructures chaque année. Là-dessus. Ouais, le document n'est pas très précis là-dessus. Et puis l'endroit où le bât blesse assez sérieusement, c'est la question des moyens. Là où le gouvernement a eu de la chance, entre guillemets, c'est compte tenu du niveau de maturité dont je parlais, les grands arbitrages budgétaires en matière d'adaptation, ils restent à venir parce que, en fait, il y a des choix d'adaptation qui restent à faire. Je reprends mon exemple des infrastructures critiques. Ce qui est prévu par le PNAC et qui est vraiment et sérieusement enclenché, c'est de cartographier les vulnérabilités sur nos réseaux. C'est dommage, on ne les connaissait pas encore, on aurait pu anticiper un peu. et proposer des options d'adaptation. Et donc ça, c'est une demande qui a été officiellement faite aux patrons de toutes les grandes entreprises qui gèrent des infrastructures, qui est prise assez au sérieux par ces gens-là. La prochaine étape, ça va être de poser ces options sur la table et d'avoir un débat sur où est-ce qu'on est prêt à investir, à quel niveau on est prêt à investir, est-ce qu'on veut rendre tous nos réseaux ferroviaires 100% robustes, est-ce que, y en a certains axes qui sont prioritaires, est-ce qu'on privilégie, je ne sais pas, les mobilités du quotidien par rapport au LGV. Ça va amener des besoins d'investissement, par exemple dans la résilience des infrastructures. Les choix budgétaires, en gros, ils nous attendent pour l'année prochaine, dans 2 ans. Ceci étant dit, il y a quand même deux, trois sujets sur lesquels le travail avait en partie été fait. On aurait pu s'attendre à des arbitrages dès cette année. Je pense au littoral, où il y avait quand même eu les travaux du Comité national du trait de côte qui avaient préparé un certain nombre de choses. Je pense, Gonéry pourrait en témoigner, à la suite des travaux qui ont été lancés sur la prévention des risques naturels et la pérennité des régimes d'assurance publique. Là aussi, il y a des choses qui étaient prêtes, où on aurait pu s'attendre à des choix un peu plus tranchés. Je pense que le contexte budgétaire n'y a pas aidé. Et puis, pour être tout à fait honnête, la partie qui, moi, m'inquiète le plus, c'est le point sur les moyens d'accompagnement. Parce que intégrer la traque, avoir ce réflexe d'adaptation à tous les niveaux pour tous les acteurs, ça veut dire que beaucoup de gens, je pense à des collectivités locales, à tout un tas d'entreprises qui ne se posaient pas du tout ces questions, vont devoir se les poser. Ce n'est pas des questions faciles, Juliette en témoignera, j'imagine. Ça demande une montée en compétences, ça demande de l'expertise, et ça demande des moyens d'accompagnement. Or, il y en a assez peu. Il y avait une mesure prévue pour ça, qui est la mesure 25 du PNAC, qui était de créer une mission adaptation, une forme de service public de l'adaptation. Cette mesure, à des moments, on espérait qu'elle ait des moyens additionnels vraiment nouveaux. Il se trouve qu'elle se fait à moyens constants. Or, les moyens constants, si on regarde les opérateurs de l'État qui contribuent à l'adaptation, ils sont plutôt en train de décroître. Alors, c'est un graphe que je vous avais déjà montré la dernière fois que vous m'aviez invité, qu'on met à jour chaque année. Il s'était à peu près stabilisé l'année dernière. Autant vous dire que cette année, il est pas mal reparti à la baisse. Et donc, voilà, je pense que nous, on a une grande inquiétude là-dessus, qui est une inquiétude qui est d'autant plus importante si on considère un des défis du PNAC, alors d'amélioration du PNAC ou de suite du PNAC, qui est que je vous ai dit, il y a eu beaucoup de dynamiques qui ont été lancées, assez sérieuses. Pour l'instant, la mobilisation, elle est quand même limitée à des acteurs plutôt nationaux, du côté de l'administration de l'État, du côté des opérateurs, du côté des grands gestionnaires d'infrastructures. Or, on sait qu'une grande partie de l'adaptation, elle va devoir se déployer à une échelle plus locale, et que ça, tout ça, ça reste à organiser, ça reste à organiser, ça reste à accompagner. Puis ça veut dire qu'en fait, il y a tout un travail d'abord de compréhension des vulnérabilités à l'échelle locale qui va devoir se faire partout. Alexandre, si tu citais ce qui a été fait à Paris, je pense que c'est un bon exemple, mais ça reste l'exception aujourd'hui. Et puis sur la base de ces constats des vulnérabilités, ça veut dire qu'il va falloir organiser des débats avec des vrais choix locaux, des vrais choix démocratiques à faire sur quel est le niveau de service qu'on attend, quel est le type d'agriculture qu'on veut mettre en avant. Je vois le temps qui file, mais je prends un exemple. En ce moment, je travaille sur la question de l'adaptation à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Le sujet qui est sur la table, ce n'est pas encore un sujet de gros besoin d'investissement, c'est un sujet de discussion locale de quelle est la forme d'agriculture. Les filières, les élus, la population de ce territoire veut, dans un contexte où les sécheresses vont devenir plus fréquentes, et où on voit l'effet qu'elles produisent. Et clairement, ce qui manque aujourd'hui, c'est une organisation, une mise en discussion de ces choix-là sur la base des expérimentations possibles. Et tout ça, ça demande quoi? Ça demande d'abord du temps, de l'expertise, de l'animation. Et c'est un peu là où à moyen constant, on se dit que ça va être, que ça va être difficile. Donc, si je peux conclure assez rapidement. Alors, je ne sais pas si c'est pour améliorer le PNAC ou pour faire des propositions alternatives ou pour défendre des choses. Ensuite, je pense que, comme je le disais, on a une idée assez consensuelle de ce qu'il faut faire comme action technique de premier ordre. Ce qui est devant nous, c'est là où il y a plutôt des choix à faire, des différentes visions de l'adaptation à développer et à incarner. à porter politiquement. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses, voilà, le type d'agriculture, le type de gestion de l'eau, le type d'aménagement du territoire, le type de solidarité entre territoires sont des choses qu'il va falloir discuter, qu'il va falloir financer aussi. Et donc là, il y a un moment où c'est quoi les options crédibles de financement, où est-ce que quelles recettes, quelles dépenses. C'est peut-être difficile de construire ce type de vision sur une politique d'adaptation en général. Et le PNAC, c'est un peu ce cadre très transversal qui équipe tout ça. Il va surtout falloir le porter dans tout un tas de débats plus sectoriels. Et je vous ai mis une petite sélection, pas du tout exhaustive, mais de débats qui sont devant nous pour les prochains mois, qui sont déjà identifiés, dans lesquels on va devoir faire atterrir toutes ces questions d'adaptation. Il y a un débat qui arrive vraiment, qui est le débat sur le financement de la politique de l'eau, où il y a une conférence, une grande conférence nationale sur le financement du grand cycle de l'eau qui a été annoncée. Bah, derrière, c'est des choix d'adaptation. Quel modèle on veut? Moi, j'entends, voilà, encore des gens qui défendent qu'il n'y a absolument pas de problème d'eau dans certaines régions parce qu'on peut construire des usines de dessalement et des aqueducs partout. Bon, à quel moment on débat de ça? Il y a un débat qui est devant nous dans les tout prochains mois aussi, notamment autour de l'initiative portée par le gouvernement de Beauvau de la sécurité civile, qui est sur le financement des moyens de secours, et notamment des moyens de secours dans les départements. La partie réponse aux crises, elle fait partie intégrante de l'adaptation, elle est dans le PNAC. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de financement RH, notamment par les départements, de ces services-là. Ben là, on a un vrai débat de comment on organise les solidarités entre territoires, comment on finance l'adaptation. Je parlais des infrastructures de transport. Là aussi, on sait qu'on va devoir discuter de comment on finance, comment on priorise, notamment les travaux nécessaires sur le ferroviaire. Si on veut en plus des infrastructures résilientes, ce qui ne paraît pas être totalement un luxe, ça veut dire qu'il y a un delta de coûts. Et on l'a en partie étudié avec I4C, je pourrais revenir dans les questions, qu'il va falloir intégrer à ces débats-là. Un dernier exemple, après je m'arrête. On a tout un tas de projets de développement, développement de transport, de projets industriels qui sont dans les tuyaux. Certains sont contestés pour différentes raisons, certains sont en débat. Comment on intègre le sujet adaptation là-dedans? C'est quelque chose qui est tout juste émergent. On sait qu'il y a des projets industriels qui vont, bah, par exemple, demander de la ressource en eau. Il y a des projets industriels qui sont ou de développement de transport portuaire ou autre qui sont sur des zones littorales exposées à des risques. Comment on embarque l'adaptation là-dedans? Est-ce qu'on stress teste ces projets à plus 4 degrés, voire à plus? Bah c'est là, sur quasiment sujet par sujet, territoire par territoire, qu'il va falloir faire atterrir cette traque, ces outils proposés par le PNEC. Et ses choix et ses choix d'adaptation.
Merci, merci Vivian. Avant de passer la parole à Juliette, est-ce que je me trompe si, en fait, en t'entendant parler, j'ai un peu l'impression que finalement, le PNAC 3 est sorti, mais le gouvernement a presque pas fait de choix. C'est-à-dire, OK, il y en a un sur la traque, mais c'est un peu tout. Qu'est-ce que tu... Donc là, je précise aussi qu'il y a une consultation en cours qui est ouverte jusqu'au 27 décembre, si je me trompe pas, mais n'hésite pas à me corriger si c'est le cas. J'entendais Madame Signoux du ministère de la Transition en parler pas plus tard que hier. Mais là, j'ai surtout l'impression que, enfin, c'est pas tellement en un mois qu'on va pouvoir trancher sur tous ces sur tous les choix qui sont devant nous, en tout cas dont tu montrais quelques exemples. Est-ce qu'il y a eu, dans ton impression, il y a une sorte de tétanie en fait du gouvernement sur cette question?
Alors là, c'est un peu subjectif comme réponse, mais j'aurais tendance à dire que c'était pas forcément une. J'ai l'impression que c'est en grande partie, et c'est inquiétant peut-être, mais une question de maturité des sujets. Je l'illustre très simplement. Nous, on a travaillé sur les coûts de l'adaptation, et quelque part, il y a eu. Le plus gros de notre travail a été de faire comprendre qu'en fait, ces coûts de l'adaptation, ils vont dépendre des choix d'adaptation qu'on va faire, et qu'en fait, ils peuvent être très larges entre. Un monde où on se contente de réagir au coup par coup, et un monde où on anticipe beaucoup, un monde où on est très solidaire et un monde où on ne l'est pas du tout. Et ça, en fait, ce n'était pas du tout évident au début. parce que je pense qu'il y avait alors une crainte que ça coûte trop cher d'abord, mais surtout l'impression qu'en fait il n'y aurait qu'une manière de réagir à chaque fois. Et le fait de se rendre compte que en fait c'est des débats structurés, que c'est pas forcément consensuel l'adaptation, chose qu'on a beaucoup entendu au début des travaux, c'est quelque chose qui a été compris dans la construction, je pense, du plan. Et j'ai l'impression que l'ambition du coup de ce document a été d'installer le cadre pour avoir ces discussions. Et c'est pas des discussions. Voilà, le PNAC, c'est un document qui a été piloté par le ministère de l'Environnement dans une logique interministérielle, mais c'est probablement pas l'espace de discuter de tous les sujets qui vont être concernés par l'adaptation. C'est vraiment de dire, on donne les outils, les indications, les hypothèses communes pour avoir ces débats dans toutes les politiques publiques où il faut les avoir. Et clairement, aujourd'hui, on ne les a pas. Je pense qu'effectivement, y a pas forcément partout la volonté de les avoir. Sur les politiques agricoles, par exemple, il y a beaucoup d'implicites dans les choix de transition agricole qui sont faits en matière d'adaptation et de confiance dans le fait qu'on arrivera à maintenir des niveaux de production malgré le changement climatique et pas une volonté très forte d'avoir les débats. Je pense que dans d'autres secteurs, on commence à voir se structurer la volonté d'avoir ces débats. Je pense que c'est le cas sur les infrastructures. Donc voilà, plutôt que. Alors, je ne sais pas si c'est une tétanie. Je pense que la tétanie, on s'en est. L'ampleur de la chose, on s'en est rendu compte progressivement. Je pense que c'est plus une question de maturité du sujet, malheureusement. Mais enfin, qui maintenant ne devrait plus. Enfin, voilà. Il n'y a plus trop de. Maintenant que le document est là, je pense qu'on n'a plus d'excuses de ne pas regarder ces débats en face. Encore faut-il les politiser. Il y a encore 6 mois, 1 an, nous, on trouvait, quand on essayait d'avoir des interlocuteurs dans la société civile du monde ONG pour parler d'adaptation, on n'en trouvait pas. Donc il y a aussi ce sujet-là, quoi. Il y a un débat public qui doit se structurer sur l'adaptation et commence à peine à se structurer.
Bah, ça fait une parfaite transition avec Juliette. Je te remercie. Juliette Nouel, tu es la créatrice des ateliers de l'adaptation au changement climatique et à ce titre, tu as formé, sensibilisé énormément de gens directement ou indirectement grâce au réseau que tu as créé à ce sujet. Donc, tu as beaucoup de retours terrain. Tu m'en parlais cet après-midi sur cette nécessaire politisation au sens de on est face à des choix. Qu'est-ce que tu perçois avec ces retours terrain et qu'est-ce que ça te dit en fait sur ces choix à venir et sur le niveau de compréhension de la population qui est déjà extrêmement filtrée puisqu'elle fait l'effort de venir jusqu'à ces ateliers. Tu as la parole pour 1 dizaine de minutes. Merci encore à toi.
Ben, bonsoir à toutes et tous et merci pour l'invitation. Petite précision et après je vais embrayer. Les ateliers, on ne les fait pas que à des gens qui viennent spontanément nous voir, hein. On les fait dans les entreprises, on les fait dans les collectivités. Et donc là, ben, c'est pas imposé, mais voilà. C'est pas une démarche spontanée de leur part. Alors, avant de répondre directement à ta question, Alexandre, je vais quand même me permettre de donner mon avis, parce que je ne peux pas m'en empêcher sur le PNAC, et donc qui revient
Tu
un peu sur.
es là pour ça, hein?
Oui. Donc, voilà. Moi, à la lecture, j'ai vu comme Vivian, hein, qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes et qu'on se disait, ah, ben oui, ils ont pensé à ça, ils ont pensé à ça, c'est génial. Mais finalement, une impression générale de flou, à chaque fois qu'on veut se saisir d'un truc, c'est comme du sable qui coule entre les doigts. Alors, moi, de mon interprète, de ce que j'en ressens, c'est pourquoi cette impression? Ben parce que, un, il n'y a pas d'inscription dans la loi. On aurait très bien pu penser que, comme la SNBC qui est dans la loi depuis 2019, on aurait pu inscrire la traque dans la loi. Bon, ben non, ce n'est pas le cas. Et puis, pas de dépenses publiques prévues à la hauteur, très loin de là. Puisqu'on a un pauvre 75 millions d'euros qui arrivent pour le fonds Barnier, qui va le porter à 300 millions, mais c'est tout, quoi. Donc, quand je lis les documents d'I4C, je vois qu'il faudrait à minima dépenser 2,3 milliards d'euros par an pour l'adaptation. Donc, Vivian, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais voilà. Donc, on est très, très loin des ordres de grandeur. Et puis, de façon très globale, il y a quand même quelque chose qui m'a gênée. Il y a 6 grands principes stratégiques, anticipation, progressivité, priorisation, co-bénéfice, différenciation et mobilisation. Et moi, il m'a manqué justice et équité. Voilà. Alors, ils en parlent de temps en temps. C'est pas complètement passé à la trappe, mais que ça soit pas dans les grands principes, je trouve ça dommage. Après, très scolairement, je réponds aussi, peut-on s'adapter à une telle trajectoire? Donc, je ne suis pas climatologue, et donc, moi, je ne fais que répéter ce que disent les climatologues. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Gonéry, mais je vais répéter ce que dit Christophe Cassou, qui dit, bah, en fait, on rentre quand même en territoire inconnu, hein, et qu'avec ce plus 4 degrés, il faut cesser de raisonner en mode petite perturbation, hein, et surtout ne pas penser que la France est seule au monde. Et du coup, là, je vais quand même partager, je vais commencer à partager quelques images. Alors, vous verrez, elles sont beaucoup moins sérieuses que celles des autres, à part la première. La première, c'est cette fameuse image du GIEC. Bah, vous la voyez pas? Zut.
On la voyait juste avant, je ne sais pas si c'est...
Bon,
Bon, tu peux
OK.
laisser comme ça alors.
Voilà. Donc, c'est de montrer bah, comment, enfin, c'est le nombre de jours qui sont invivables à cause de la chaleur et de l'humidité dans le monde. Et donc, effectivement, c'est extrêmement difficile de penser la France complètement isolée des autres en fonction, enfin, dans une trajectoire à plus 3 dans le monde, plus 4 en France. Voilà. Et puis, peut-on s'adapter à une telle trajectoire? Bah, moi, je dirais. Et je vais rejoindre ce que dit Vivian. La question pour moi, c'est adapter qui et adapter quoi, hein? Il y a vraiment une question de choix collectif. Et dans l'introduction du PNAC, c'est écrit, le PNAC doit susciter un débat profond sur les grands choix qui restent devant nous. Que souhaitons-nous collectivement protéger, abandonner, changer pour nous adapter? Je me demande si ce n'est pas Vivian Despoues qui a écrit cette phrase. Mais en tout cas, je la trouve formidable. Voilà. Mais après, enfin, c'est quand même très concret, tout ça, hein. Et dans la dernière mesure, il y a écrit, l'État doit faire de la pédagogie à ce sujet, hein, pour prôner une écologie des solutions et montrer que s'adapter aujourd'hui va permettre aux Français de mieux vivre demain. Alors là, ça m'a fait tiquer, parce que il faut quand même, enfin, le discours qui dit on va pas échapper à la totalité des claques, il est compliqué à dire. Mais pourtant, il va quand même falloir faire des choix qui ne sont pas forcément marrants. Donc voilà, bon, moi j'ai créé des. Je suis dans la sensibilisation et dans la vulgarisation, hein. Donc mes visuels, ils sont toujours un peu simplistes, mais quand même, là, voilà, c'est clair, on ne va pas pouvoir, par exemple, adapter et protéger toutes les routes. Donc la question, elle va se poser aussi crûment que ça. Et puis, bah, comment se préparer malgré tout? Tu nous as posé comme question, Alexandre. Bah, je dirais que ça coûte pas grand-chose et c'est de toute façon la première brique, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation, bon, c'est un peu mon job et je dirais qu'il y a énormément de travail à faire. Surtout quand on voit la dernière enquête de l'ADEME, là, l'enquête sur la représentation sociale du changement climatique, qui est sortie donc la 25e édition il y a un mois, on voit que, alors ces chiffres sont moins importants que ce que tu disais Alexandre, mais qu'une grosse moitié des Français ont déjà subi des conséquences du changement climatique sur leur territoire, et que pourtant il y en a encore 40% et 44% chez les élus qui pensent que le changement climatique sera limité à des niveaux raisonnables d'ici la fin du siècle. Et même 13%, il y a seulement 13% des Français qui disent non, il n'y aura certainement pas de graves problèmes à la fin du siècle. Il y en a que... bon, bref, vous m'avez compris, ce n'est pas dans le bon sens. Donc, moi, je dis, je vais donner quelques préconisations pour une sensibilisation, hein. Je dirais que d'abord, la première chose à faire, c'est d'expliquer l'évolution des aléas. Et donc là, j'ai des visuels du ministère de la Transition écologique, hein, j'ai rien inventé, qui disent, ben, voilà, en 2100, à plus 4 degrés en France, voilà, on aura jusqu'à 70 nuits tropicales, il n'y aura plus du tout de glaciers, on pourrait avoir jusqu'à 2 mois de canicule. Donc ça parle aux gens. Et puis, ça m'arrive aussi de leur montrer des cartes, hein, donc ça, c'est des cartes de la montée du niveau de la mer à la fin du siècle. Entre guillemets, si tout se passe bien et si on n'a pas de déstabilisation des calottes glaciaires, ben on voit que par exemple l'île de Ré et l'île d'Oléron, ça va pas être facile. Bon, Gonéry va peut-être réagir après, Mais c'est sans digue, hein, je précise, c'est si on ne construit pas des digues. Et puis évidemment, j'emmène les gens sur Climadiag, qui est l'outil de Météo France, et je leur montre bah, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, c'est par exemple à Chamonix en 2050. Eh bien, on voit que si on prend le scénario le plus élevé, à Chamonix en 2050, il fera plus 4 degrés par rapport à la fin à la période 1976-2005. Hein. Donc c'est énorme. C'est énorme. Climadiac ne se fonde pas par rapport à 1900, hein. Ne se base pas. Bon. Donc, première préconisation, montrer l'évolution des aléas. Deuxième, et c'est vraiment un obstacle que moi, je rencontre sur le terrain tout le temps, c'est d'expliquer aux gens la différence entre l'atténuation et l'adaptation, parce que, et d'ailleurs, toutes les enquêtes de l'ADEME le montraient jusqu'à maintenant, cette année, ils n'ont pas posé la question, en tout cas, ils ne l'ont pas rendu public. Quand on demande aux gens, est-ce que vous savez ce que c'est que l'adaptation au changement climatique, ils répondent oui. Est-ce que vous pouvez nous citer des mesures d'adaptation? Et là, les gens répondent, parfois trier les déchets, et sinon, limiter la vitesse sur les autoroutes, faire des éoliennes, voilà. Donc, en fait, ils n'ont absolument rien compris à ce que c'est que l'adaptation. Et vraiment, il y a un gros boulot à faire. Et une fois qu'on a compris la différence entre s'attaquer aux causes et s'attaquer aux conséquences, entre lutter contre et faire avec, parce qu'il faut vraiment ancrer les messages avec des mots simples, eh ben, il faut bien aussi dire que atténuation et adaptation, c'est complémentaire, parce qu'une fois que les gens ont compris ce que c'était que l'adaptation, eh ben, ils peuvent se retourner en disant, ah mais non, on se trompe de combat, il ne faut pas s'adapter, il faut s'attaquer aux causes. Donc voilà les principaux obstacles au départ. Après, bon, alors, petit visuel pour rigoler, mais vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut des choses aussi simples pour attirer l'attention des gens, hein. C'est important. Bon, je pense que ça serait très important aussi d'expliquer la notion de risque, parce que bien souvent, quand on demande aux gens c'est quoi pour vous un risque, ben, ils pensent, ils répondent c'est une menace. Point barre. Or, réduire le risque à la notion de menace, eh ben, ça peut conduire à un sentiment de défaitisme parce que, on se dit, bah, de toute façon, la menace, elle va faire qu'augmenter parce que, de fait, on ne réduit pas les émissions ou pas assez vite. Enfin, en fait, on n'a même pas commencé à les réduire au niveau international. Et donc, on est tétanisé, on ne peut rien faire. Ben non, nous, on leur dit, les composantes du risque, ce n'est pas simplement les aléas, hein, c'est aussi une exposition. Je suis en zone inondable. Et j'habite au rez-de-chaussée, en plus, je suis surexposée. Et puis, j'ai des vulnérabilités et je peux travailler sur mon exposition et sur ma vulnérabilité. Donc, c'est comprendre le risque, c'est aussi comprendre qu'on a d'autres moyens d'agir en s'adaptant que simplement agir sur l'aléa. Enfin, presque enfin, parce que je me dépêche, on a aussi un gros boulot à faire et c'est dans le PNAC. Pour expliquer ce que c'est que la maladaptation et rechercher les co-bénéfices. La maladaptation, très souvent, les gens comprennent que la climatisation, c'est de la maladaptation. Mais si on leur dit, bah, qu'est-ce que vous pensez des digues? Là, bah, c'est très rare que les gens aient compris que c'était une maladaptation dans certains cas, hein, dans le cas où elle n'est pas inscrite dans une trajectoire transformationnelle. Et il y a un énorme boulot à faire, et je dirais même auprès. Du gouvernement, hein, parce que même dans, je vois les autres rigoler, mais c'est vrai, dans le fond vert, bah, parfois, non, dans le fond vert, on voit, bah, la première chose à faire, c'est qu'on va faire des digues partout. Oui, les digues, mais bon, je laisserai Guenery mieux s'exprimer là-dessus, à certaines conditions. Et puis, bah, il y a aussi un risque de maladaptation si on ne respecte pas le principe de la justice et de l'équité. Et comme le montre encore l'ADEME, hein, c'est hyper important parce que quand on pose la question si des changements importants s'avéraient nécessaires dans nos modes de vie, à quelles conditions vous les accepteriez? Eh ben, la grosse majorité, enfin, là où il y a le plus de réponses, c'est qu'ils soient partagés de façon juste entre tous les membres de notre société. Donc le levier de la justice et de l'équité est très important. Et pareil pour les co-bénéfices, hein. Voilà. Et puis, je terminerai en disant qu'il faut aussi expliquer la nécessité de mesures transformationnelles C'est-à-dire pas tout le temps faire des petites mesures, et notamment dans la gestion de risque au dernier moment, mais vraiment s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et là, j'aime bien poser la question toujours, à votre avis, la mer va monter pendant combien de temps? Et les gens, si on arrêtait les émissions très rapidement, les gens, ils se lancent et ils disent, je ne sais pas, peut-être 40 ans, peut-être 50 ans. Ben non, en fait, la mer, elle va monter des siècles, voire des millénaires. Et donc, c'est là où on leur fait comprendre que on ne peut pas se contenter de petites mesurettes et que qui dit mesure transformationnelle dit qu'il faut s'y mettre très lentement, très, très rapidement, pardon. Et là, on a ce petit visuel qui va terminer ma présentation et qui est là, voilà, encore une fois pour dire, quand on s'adresse au grand public ou à des gens qui ne sont pas du tout informés comme vous pouvez l'être et comme l'est sans doute une majeure partie de notre auditoire, il faut avoir des messages simples, percutants et beaucoup les répéter. Voilà. J'ai fini.
Merci, merci Juliette. J'ai une question pour toi et peut-être que Vivian voudra répondre aussi, mais parce que Vivian en parlait d'un point de vue plus politique publique sur le fait qu'il va bien falloir avoir des débats démocratiques. Toi, cet après-midi, tu me disais que tu vois que dans les ateliers, quand les gens sont confrontés à des cas concrets de choix, qu'est-ce qui se passe? Le chiffre que tu disais que tu vois où je sais plus si c'était près de la moitié des Français mentionnent la question de la justice et de l'équité comme une condition nécessaire au fait de faire ces choix-là. Et est-ce que tu le vois dans les ateliers, ça?
C'est toujours pareil, hein. Il y a des gens qui pensent spontanément et il y a des gens pour qui il faut le répéter, hein. Donc, c'est pas parce qu'on a expliqué que c'était un critère hyper important du GIEC que... Mais ils l'ont sous le nez quand même parce que, voilà, dans l'atelier, on met vraiment la carte justice et équité au milieu de tous les critères d'adaptation et ils savent qu'ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas laisser ça de côté. Voilà. Après, est-ce qu'ils l'auraient fait spontanément? Je ne sais pas. Mais nous, ce qu'on explique bien, c'est que, effectivement, puisque tu veux, enfin, j'en ai beaucoup parlé cet après-midi, mais quel choix on va faire, ça va dépendre énormément de qu'est-ce qu'on choisit de préserver et est-ce qu'on va choisir de préserver collectivement le bien commun ou simplement l'intérêt de quelques personnes. Ou de quelques systèmes socio-économiques, pour ne pas les nommer, qui nous ont conduits à cette catastrophe environnementale à plein d'égards. Donc, c'est vraiment ça qui est très important. Et ces choix-là, qui ne sont pas encore faits, ils auront forcément une coloration politique. On ne sait pas laquelle, mais le choix de qu'est-ce qu'on décide de préserver et qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner, idéalement, il doit être fait démocratiquement en prenant l'avis de tout le monde.
Et petite parenthèse, c'est exactement le type de débat qu'on a eu dans la mission transpartisane Paris à 50 degrés, parce que très rapidement, les élus se sont rendus compte qu'on ne pourrait pas tout adapter à n'importe quoi, et donc il fallait faire des choix. Et la question, c'était quel choix on fait collectivement en 2022, au moment où on a travaillé sur ce sujet. Vivian, tu me fais signe si tu voulais mettre un mot là-dessus. Sinon, on va aussi. Je vais te laisser la parole, du coup, Vivian. Et n'hésitez pas en ligne à utiliser les systèmes que vous connaissez sur Zoom pour lever la main, pour pouvoir poser des questions. Je vais en prendre aussi à l'oral. Et sinon, posez-les à l'écrit si vous préférez que ce soit moi qui les lise. Voilà, Vivian, si tu voulais dire un mot. Et Gonéry, je te laisserai la parole aussi pour savoir si tu veux répondre ou rebondir à certains éléments. Et merci d'avoir répondu à beaucoup de questions dans le chat en parallèle.
Deux petits compléments sur les points qui viennent juste d'être discutés. Il y a déjà un constat que nous, on a fait quand on a travaillé sur les coûts de l'adaptation. Merci Juliette d'avoir cité les ordres de grandeur, quelque chose que je n'avais pas pris le temps de faire, mais ils sont tous disponibles sur notre site. C'est que, en fait, le scénario tendanciel, dans la plupart des secteurs, c'est pas un scénario où on fait rien du tout et on subit des impacts comme s'il ne se passait rien. C'est un scénario, la plupart du temps, qui est un scénario d'adaptation réactive. Et très concrètement, l'adaptation réactive, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à des infrastructures de transport dans lesquelles on fait plus de maintenance, on accepte progressivement des services dégradés dans les endroits où, bah, tant pis, c'est pas là où il y a où il y a le gros des passagers qui sont prêts à payer plus pour que ça soit réparé vite. C'est de la climatisation systématique dans les bâtiments parce qu'en dernière minute, quand on a eu chaud un été, deux étés, ben, on climatise. On ne se pose pas la question de faire des choses plus structurelles. Donc, le scénario un peu tendanciel où on n'anticipe pas, c'est le scénario, c'est exactement le dernier visuel de Juliette, où on fait les choses voilà, de manière pas forcément anticipée, donc pas forcément les mieux pensées, et très souvent très inégalitaire. C'est le point que je voulais ajouter. Et le deuxième point que je voulais ajouter pour illustrer très concrètement, quand on parle de débat démocratique sur c'est quoi les formes d'équité en termes d'adaptation, dit comme ça a l'air assez abstrait. En vrai, on a des débuts de débat comme ça qu'on voit émerger. Je citais tout à l'heure le sujet de l'adaptation littorale comme étant un des sujets qui est un petit peu plus mûr en termes de besoins et d'options sur la table. Si on regarde les conclusions du Comité national du trait de côte, on voit que parmi les biens qui sont directement exposés aux risques littoraux et notamment aux risques érosion, on a des biens de différentes natures. On a un certain nombre de résidences principales, on a aussi un certain nombre de résidences secondaires. Et dans les différentes propositions qui sont faites, il y a des propositions de pas forcément traiter de la même manière la prise en charge publique de la relocalisation des habitants et des activités dans un cas et dans l'autre. Avec des options assez diverses de comment on finance ça, qu'est-ce qui est pris en charge par la solidarité nationale, qu'est-ce qui est pris en charge par des solidarités locales, est-ce que ce qu'on met à contribution, c'est les propriétaires lors des transactions via des mécanismes type prélèvement sur frais de notaire, ou est-ce que c'est plus généralement du budget général de l'État? En fait, derrière, c'est des vraies questions de comment on organise ces solidarités financièrement, là je parle avec ma casquette économiste, et bah, quels sont les cas qu'on différencie? Est-ce que des résidences secondaires, des résidences principales, c'est le bon critère? Est-ce que c'est des résidences principales par différentes tranches de revenus? Voilà, c'est ça les débats très concrètement d'adaptation où on dit c'est des choix démocratiques. Alors là, c'est un débat national. Il y a beaucoup de débats aussi très, très locaux. Voilà, c'était pour illustrer ce point-là.
Mais si je peux rebondir, c'est un point hyper important. Et si je ne me trompe pas, c'était Vivian, ça faisait aussi partie du rapport sur les des assureurs qui avait été fait par le rapport récent qui avait été commandé par Bruno Le Maire à l'ancien directeur général
Langrenet, la mission Langrenet.
Dont Guénéry était
Langrenet.
membre.
Et il
Ah.
citait très précisément cette histoire des résidences secondaires. Et c'est toute la question de l'aléa moral dans dans l'assurance, en fait, hein, qui est derrière. Enfin, je ne vais pas développer, mais
Ah,
bon.
Guénéry, tu veux nous expliquer si tu étais dans ce travail-là?
Ben,
Bien
sur
sûr.
ce point très spécifique, en fait, l'idée, c'était que, en fait, sur le littoral, il y a un risque, en fait, qu'il y ait les solidarités nationales, en fait, finissent par en fait rediriger de l'argent vers des personnes qui sont déjà très aisées en fait parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires etc. etc. Donc l'idée c'est de dire les personnes enfin ce qu'on avait proposé à l'époque c'était de dire en fait que ben, le système CatNat y aurait un ajustement pour les propriétaires de résidences secondaires et puis pour les propriétaires de biens de luxe qui serait en fait que ben, en fait il y aurait une libéralisation de la surprime CatNat et puis des franchises. Ce qui inciterait en fait les propriétaires à prendre des mesures de prévention individuelle. Voilà, donc c'était une proposition et je ne crois pas qu'elle sera suivie des faits. Mais en fait, l'idée générale, c'était, si vous voulez, quoi qu'on fasse à la fin sur le littoral, il faudra toujours faire très attention en fait à ce que les aides à la relocalisation, les aides à l'assurance, etc., elles soient en fait avec des seuils stricts et bas pour éviter en fait que. En fait, il y a en gros de la solidarité nationale qui aille vers les plus aisés, en fait, tout simplement. C'est vraiment extrêmement important, ça, je pense. Et c'est quelque chose qui est très fortement porté par la communauté scientifique. Il y avait Catherine Meurferret, qui est chercheure, en fait, à Brest, qui avait écrit une tribune à ce sujet il y a quelques années. Et en fait, des fois, on entend des demandes de l'ANEL qui font un peu peur, quoi.
Mais et ça fait écho donc à une constante dans les enquêtes de l'ADEME qu'elle fait depuis 25 ans, hein, sur le fait que, enfin, c'est pas que cette année que la justice et l'équité est le principal moteur d'acceptation ou d'acceptabilité, je ne sais plus ce qu'il faut dire, Gonéry, depuis cet après-midi, des mesures importantes. Hein. C'est vraiment à chaque fois, globalement, c'est OK si tout le monde, si c'est juste et équitablement réparti dans toute la société. Donc cette histoire de, ben, on va aller indemniser des gens qui se sont achetés une maison, plusieurs millions d'euros. Alors qu'ils savaient très bien, parce qu'il y en a qui le savent, hein, que dans quelques années, elle sera submergée, c'est fou, quoi.
Alors,
En fait,
avant de... Ah oui, vas-y, je te laisse répondre,
je
Gonerit.
voulais juste réagir à quelque chose qu'avait dit Juliette et qui me semble vraiment très pertinent. C'est que, en fait, quand vous regardez le PNAC, la dimension équité et justice, et puis également la question de genre, en fait, qui est bien identifiée comme un sujet d'adaptation. Ben en fait, elles ne sont pas très présentes. C'est même plutôt les grands absents. Et donc là-dessus, il y a des besoins de renforcer le PNAC. Ça, c'est extrêmement clair. Et en fait, la chose, disons, solide sur laquelle se raccrocher pour dire qu'il faut le faire, c'est qu'en fait, à la COP28, il y a eu en fait un UAE, Global Framework for Climate Resilience, en fait, qui liste un certain nombre de domaines thématiques qui doivent être traités quand on parle de l'adaptation. Et cette question, en fait, des inégalités, de la pauvreté, etc., en fait partie.
Alors, on va prendre quelques questions à l'oral et pendant que vous utilisez les boutons adéquats pour lever la main, j'en profite pour saluer Vincent et pour lui dire que pendant la mission de Paris à 50 degrés, j'ai été agréablement surpris par les positions des membres du centre et de la droite. Et ils n'étaient pas du tout dans une posture caricaturale qu'on peut en entendre certains au niveau national, à la télé ou sur Twitter. Et je vous livre juste une anecdote. À un moment, il y a eu une engueulade monumentale entre un élu de droite et un élu communiste. Et c'est l'élu de droite qui disait, on va pas assez loin dans ce qu'on proposait sur les écoles. C'est une question de protection des populations. Et ça, j'ai trouvé que c'était un moment important dans la mission qui montre que... C'est aussi possible de faire du transpartisan sur des questions qui sont aussi importantes et je sais que c'est aussi quelque chose que Delphine Batho fait beaucoup au niveau de l'Assemblée nationale. Et avant de te passer la parole, Delphine, pour la question, j'en profite aussi pour dire à Jacques que sur les questions de démocratie, moi je suis très intéressé de voir les résultats de la métropole de Lyon qui a organisé une convention citoyenne sur cette question de l'adaptation. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'ils ont réussi à pousser les arbitrages et comment ils en ont discuté. Voilà, Delphine, je te laisse la parole pour une question et n'hésitez pas à lever la main. On va essayer d'en prendre plusieurs s'il y en a au même moment.
Oui, bonsoir, merci. Oui, je pose la première question comme ça pour que les autres soient incités à faire pareil. Une remarque qui n'engage pas nos invités, mais il est très clair en fait que le plan national d'adaptation au changement climatique qui devait sortir beaucoup plus tôt est victime d'une situation politique qui se caractérise notamment par le backlash contre l'écologie. Et donc en fait, sa présentation n'a pas cessé d'être reportée malgré le travail sérieux qu'il peut y avoir. Derrière, il n'est pas une priorité forte, sinon il n'y aurait pas les choix budgétaires qu'on observe actuellement, ou alors des décisions comme celle de la remise en cause des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, alors même que nous sommes dans une situation où tous les jours illustrent les impacts du changement climatique, y compris en situation intérieure franco-française, voire notamment la situation des récoltes agricoles et de la colère du monde agricole. Peut-être que ce qui se passe en Espagne va en faire réfléchir un certain nombre. J'avais des questions précises à ce stade. D'abord, enfin, pour y revenir, elle a déjà été un peu posée dans le chat, mais sur l'horizon de temps. Notamment par rapport à ce que disait Juliette, c'est-à-dire concrètement comment on en parle avec les citoyens, comment on implique tout le monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin dans la trajectoire de référence d'un point d'étape intermédiaire à 2050? qui puisse être plus, en anglais on dirait drivant pour les politiques, pour les politiques publiques. Deuxièmement, la trajectoire de référence où moi je trouve ça quand même pas normal qu'il y ait une trajectoire de référence, c'est une bonne chose. Qu'on n'ait pas sollicité un avis du Haut Conseil pour le climat sur quel scénario il faut retenir, etc. Je trouve ça pas normal. La question qui est posée, c'est celle de sa portée. Là, on est sur un document qui est seulement un document d'orientation. Qu'aurait le mérite d'exister. Mais est-ce que selon vous, il faut en fait une loi qui dit bah voilà, pour toutes les normes, toutes les normes, tous les standards dans tous les domaines, la trajectoire de référence doit être prise en compte comme ci, comme ça. Et alors, la troisième question qui est un peu plus compliquée, c'est celle des concepts, parce que on constate quand même un dévoiement de la notion d'adaptation. Qui est une notion qui est dans les rapports du GIEC, etc. Enfin, sur le fond, elle est en train de créer, en fait, dans la manière dont elle est utilisée dans le débat public, l'idée fausse qu'on pourrait s'adapter à tout. Et c'est pour ça que nous, on privilégie depuis longtemps les notions soit de résilience, soit d'adaptation profonde. Donc, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à cette question un peu des concepts. C'est-à-dire, on comprend bien la notion de plan d'adaptation par rapport, si on est dans le logiciel des COP, du GIEC, etc. Mais il y a un risque que ce ne soit pas entendu comme ça. Et que donc, ça fausse en fait la conscience de l'ampleur des changements sociétaux à opérer, qui ne sont pas que des changements techniques ou des changements d'infrastructure.
Alors, je voulais prendre trois premières questions. Nous les avons, donc je vous laisse y répondre dans l'ordre que vous voulez. Gonéry, je vois que tu as débranché ton micro, je t'en prie.
Bien, merci. Ben, merci pour ces questions. Alors, je pense qu'en fait, sur la question de l'horizon de temps, c'est vrai qu'il y a des échéances qui peuvent paraître lointaines, 2100, etc. Mais il ne faut pas oublier en fait qu'il y a pas mal de décisions qu'on prend aujourd'hui qui ont un très fort effet verrou, en fait, sur le long terme, et qui rendent très compliqué l'adaptation demain, en fait. Je pense que ce sujet-là, il est important et ça doit nous pousser à regarder l'adaptation au-delà de 2050 et probablement 2100 pour le niveau de la mer, quoi. Cela dit, c'est vrai qu'en fait, il y a des sujets immédiats qui sont maltraités. Et par exemple, la question en fait des vagues de chaleur. Hein, quand on lit toutes les mesures qui correspondent aux vagues de chaleur, les impacts pour les gens, en fait, il y a quand même beaucoup de mesures en fait qui paraissent pas beaucoup à la hauteur en fait. Par exemple, on voit que pour les cadres publics, bah, l'idée c'est vous pouvez décaler vos horaires de travail, et vous pouvez acheter chez vous. Mais si vous habitez dans un logement qui lui-même est peu isolé, bah, en fait, vous avez résolu aucun problème en fait. Hein, Donc du coup, et puis pour les enfants par exemple également, les normes également, alors ça c'est un sujet qui est signalé dans le Haut Conseil pour le climat, hein, les normes sur les bâtiments, elles sont probablement insuffisantes par rapport à ça. Les normes géotechniques pour par exemple en amont des nouvelles constructions pour éviter qu'elles soient trop sensibles au retrait gonflement des argiles, il y a probablement un besoin de les renforcer en fait. Donc bon, ça c'est des choses en fait sur lesquelles on reste à ce stade sur notre faim. Et ce ne sont que des exemples. Mais je pense que sur les échéances, ça veut dire quelque part que il y a des choses immédiates qui sont probablement pas traitées de manière suffisante. Et puis il faut quand même regarder le long terme pour les effets verrous. Alors sur le Haut Conseil pour le climat, il a clairement salué la PNAC en fait, la TRAC. À l'époque, il n'y avait pas d'informations sur la PNAC et en fait, il regrettait que le PNAC soit pas publié, hein, comme vous le faites également. Je pense en fait que l'idée générale, c'est de dire effectivement le fait d'avoir un scénario, ça a le mérite de la clarté et peut-être d'engager davantage d'acteurs en fait. Voilà, à mon avis, ce qui se passe, c'est que tôt ou tard, on sera bien obligé de revenir au fait qu'il y a quand même des acteurs qui ont besoin de scénarios complémentaires, et notamment les gestionnaires d'infrastructures critiques. Et par exemple, si on regarde la région qui va de Dunkerque à la frontière belge, en fait, c'est une région qui est poldérisée. Qui est soumise en fait aux pluies intenses, qui est soumise enfin, à l'élévation du niveau de la mer en fait, qui est affectée par ça. Et en fait, c'est une région pour laquelle les problèmes qui se posent sont pas tellement différents de ceux qui se posent pour les Pays-Bas en fait. Et les Pays-Bas, bah, en fait, eux, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire jusqu'à 3 mètres d'élévation du niveau de la mer en fait. Cette vision stratégique, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand le niveau de la mer dépasse 50 cm, 1 mètre, etc., qui rassure tout le monde en fait, qui rassure tous les acteurs parce que ça donne une trajectoire claire. Ben ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas aujourd'hui dans le plan national d'adaptation et qu'il faudrait vraiment qu'on ait, à mon avis. Voilà. Je dirais que sur la traque, il y a eu un parangonnage, il y a eu une analyse, en fait, qu'est-ce qu'on fait à l'étranger comme scénario, en fait. Je ne suis pas sûr que ça a été suffisamment exploité, mais bon, j'aurais tendance à dire que le fait de choisir un scénario, c'est perfectible. J'aurais tendance à dire, il faut peut-être pas, c'est peut-être pas le débat principal. Pour moi, le débat principal, c'est vraiment les choix, en fait. Puis alors après, quand on arrive sur les concepts, comment on utilise l'adaptation, comment c'est présenté, là je suis complètement d'accord aussi, en fait, quand on lit le document d'introduction, parce qu'il y a 500 pages d'annexes, en fait, et c'est surtout les 500 pages d'annexes qui précisent les pilotes, les échéances, les fuites d'ancement qu'on ne voit pas trop, en fait, etc. Ben, en fait, le document, il est vraiment très bizarre, en fait. On voit des concepts comme par exemple la suradaptation. En fait, on a l'impression qu'on voit un espèce de. Finalement, de problèmes d'optimisation où en fait il faudrait pas se sous-adapter parce que ça coûterait cher, mais il faut pas non plus se suradapter parce que ça coûterait cher aussi. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur l'adaptation. La suradaptation, on en a parlé deux fois en réunion, quoi. Et c'est pas considéré comme un risque très important aujourd'hui. Et puis surtout, on n'est pas face à un problème d'optimisation, en fait. On est face à un problème où il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles, en fait. Et en fait, on doit se préparer à faire face à tout. Et donc, c'est plus en fait des problèmes, en fait. Dans le jargon, on parle de robust decision making, c'est-à-dire en fait de faire face à tout un panel de scénarios et puis en fait être prêt à avoir des réponses à tout, qu'un problème d'optimisation pour optimiser les finances publiques, etc. Voilà. Il y a des petites vacheries dans le plan. Par exemple, quand vous lisez, c'est formidable, on a le fonds Barnier FPRNM qui monte de 75 millions d'euros. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le fameux rapport, la Langrenée auquel j'ai contribué, en fait, il a conduit à une rehausse de la surprime CatNat, qui mécaniquement va amener une nouvelle recette fiscale au budget général de l'État d'environ 250 millions d'euros. Et donc, quand l'État dit ben, on va rehausser le fonds Barnier de 75 millions d'euros, ben, en fait, il y a 180 millions d'euros qui sont restés en fait dans le budget général de l'État, quoi. Alors, au moment où on cherche de l'argent pour la transition, en fait, je rappelle qu'on recherche plutôt 60 ou 70 milliards et pas quelques centaines de millions d'euros, hein, quand même. Ben, en fait, donc ça c'est le rapport Pisani-Mafous, hein, les 70 milliards. Quand même, c'est un peu dommage qu'au moment où on a une mesure qui est motivée par l'adaptation, qui est la réhausse de la surprime CatNat, on arrive à avoir une nouvelle recette fiscale. C'est dommage qu'on l'attribue pas en fait à l'adaptation, quoi.
Apporter quelques éléments complémentaires, même si je partage ce qui vient d'être dit. Alors, même pour le. Il y a plus de 75 millions au fonds Barnier, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui renvoient au fonds vert, qui lui a été diminué, en tout cas dans le débat budgétaire actuel, de presque la moitié, et on est plutôt sur 1,5 milliard. Donc, sur les plus et moins, je pense qu'il y aurait beaucoup à en dire. Sur les horizons, il y avait une question de. Effectivement, juste rappeler que la trajectoire de réchauffement de référence est bien une trajectoire. Donc, on retient beaucoup dans le débat le plus 4 degrés à 2100, mais la trajectoire telle qu'elle est décrite dans le document qui a été repris, il y a même deux scénarios. Et la trajectoire en elle-même, c'est plus 2 degrés France à 2030, plus 3 degrés France, enfin 2 degrés 7 à 2050 et 4 degrés France à 2100. Et c'est vraiment en tant qu'outil de travail, comme le disait Gonéry, pour que des acteurs qui préparent leur plan d'adaptation se fondent sur la trajectoire, c'est bien sûr avec ces points de passage. Et selon les sujets dont on est en train de parler, c'est effectivement pas les mêmes points de passage qui sont regardés. Et sur le débat qu'il y a pu y avoir à des moments très légitimes de est-ce qu'il n'y a pas un risque d'optimiser selon cette trajectoire alors que l'adaptation, c'est effectivement regarder un éventail de futurs possibles. Je pense que c'est un élément à garder en tête et à bien accompagner. C'est là où il ne faut pas faire n'importe quoi avec cette trajectoire et qu'il faut vraiment avoir des discussions sur l'adaptation. Là où je suis relativement optimiste, c'est que ce que je constate jusqu'ici, des gens qui se sont saisis de cette trajectoire, par exemple des gestionnaires d'infrastructures ou autres, c'est que elle leur permet de se mettre au travail, mais en pratique, ils regardent aussi des scénarios au-delà. Ils adaptent assez bien les horizons de temps. Et donc, ça me renvoie beaucoup au point sur le bon accompagnement et ces bons moyens-là, c'est que quand on se donne le temps, qu'on réunit la bonne compétence, la bonne expertise, les gens sont quand même intelligents, enfin en tout cas les acteurs collectifs, nos organisations, si on s'en donne les moyens pour bien se poser ces questions-là. Et donc je pense que enfin voilà, ça me fait reposer cette question de ces moyens-là. Et ensuite, pour rebondir sur la portée de la traque, Effectivement, à ce stade, ni la TRAC ni le PNAC n'ont de portée réglementaire ou normative. Pour le PNAC, le choix qui a été fait, c'est que certaines des actions à l'intérieur, si elles se concrétisent, elles ne peuvent se concrétiser qu'avec une portée normative. Quand il est question de faire évoluer les documents d'urbanisme, les plans de prévention des risques, par exemple, ça nécessite des évolutions du droit de l'environnement. Donc, à un moment, comment ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Il y a un vrai sujet de suivi. Derrière. Et sur la traque elle-même, en fait, le sujet n'est pas encore totalement tranché. Il y a eu des versions du PNAC où il était écrit noir sur blanc que ça aurait une portée normative. Là, ça a plutôt été renvoyé. Et il y a une mission en cours de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable pour proposer les options possibles pour donner une portée à la traque. Et de ce que j'en comprends, les craintes, elles sont pas tant politique que juridique à ce stade où il y a eu pas mal de différents acteurs qui ont alerté sur qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de quel type de jurisprudence pourrait se créer. Je pense que beaucoup de gens enfin, du côté de l'État se rendent pas forcément compte de ce que ça voudrait dire et donc c'est en cours d'être expertisé. Et puis il y a aussi, je pense, une crainte discutable de voir d'imposer la prise en compte d'une règle qui peut être assez contraignante, par exemple, à des élus locaux, sans mettre en face les moyens pour accompagner le fait qu'on permet de bien s'adapter. Et donc, c'est vrai qu'il y a, je pense que c'est un débat qui n'est pas encore tranché ou. Voilà, on pourrait à minimum espérer que le document ait une portée normative pour les acteurs qui veulent s'appuyer dessus, parce qu'il y a quand même un enjeu aujourd'hui, si on veut adopter une politique de prévention des risques qui s'appuie sur la TRAC, aujourd'hui on s'appuie sur un PDF sur le site du ministère de l'Environnement, c'est pas vraiment un document opposable, donc à un moment il faut lui donner une portée, et puis peut-être aussi d'être plus contraignant sur les cas où on risque vraiment, on parlait de verrou tout à l'heure, de s'embarquer dans des trajectoires, enfin dans des choix qui peuvent être très irréversibles, et en particulier quand il y a de l'argent public en jeu, où là, je pense qu'on pourrait être assez contraignant sur le fait de demander aux porteurs de projets de faire la preuve qu'ils apportent des réponses satisfaisantes compte tenu de ces projections-là, de manière assez forte. Et aujourd'hui, c'est des choix qui sont pas tranchés dans le PNAC. Ou pour le coup, je pense que c'est un des endroits où il y a de la marge de manœuvre pour pousser des choses. Je pense que ça fait partie des choses qui ne sont pas arbitrées.
Juliette, tu voulais apporter un complément et puis après on aura le temps d'un dernier tour de parole de vous trois.
Non, non, c'est bon. Je voulais, enfin, en fait, je voulais juste montrer qu'effectivement, il y avait ces étapes intermédiaires, mais.
Ah ok, je croyais que tu avais levé la main sur un autre sujet.
Non, 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 non. C'était. Je l'ai montré visuellement 2 secondes parce que ça.
Oui, n'hésite pas à le faire en parallèle, comme
Voilà.
ça sera très parlant pour tout le monde.
Voilà. Tout ça,
Moi,
c'est toujours des documents du ministère, hein, mais bien avant d'ailleurs qu'ils sortent le PNAC, ils avaient sorti la traque et on voit très clairement, puis on voit ce que le parallèle monde à gauche et France à droite.
Bien, merci Juliette. Du coup, comme je n'ai pas vu d'autres mains se lever pour une question à l'oral, moi j'en ai une parce que, en fait, il se trouve que j'ai écouté le ministre de la transition précédent, Monsieur Béchu, qui parlait de sécurité, qui parlait du fait que c'était l'adaptation, c'était le socle qui permettait de faire les politiques régaliennes. Et du coup, après, j'ai été très étonné de voir que dans le PNAC, il n'y avait aucune mention qui était faite de l'armée. Alors que par ailleurs, on sait que le ministère des Armées travaille sur ces sujets. Je n'ai pas vu une seule mention non plus sur la diplomatie. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté ministère des Affaires étrangères? Et puis, ça me permet de reboucler avec une question qui a été posée dans le chat. C'est aussi quid de l'Europe, et notamment sur les sujets normatifs. Et avant de vous laisser la réponse, parce que là, on approche vraiment de la fin, je vais laisser aussi Edith poser une question.
Merci, Alexandre. Moi, j'avais une question, parce que vous avez parlé d'un service public de l'adaptation.
Et je me demandais comment vous voyez ça exactement en fait. Est-ce que ce serait que des capacités d'expertise pour les territoires et les opérateurs, ou est-ce que vous envisagez autre chose? Et puis on n'a pas parlé non plus de Gonéry du rapport que vous avez réalisé sur le système assurantiel. Si en 6 minutes, il y a moyen de tasser les réponses à toutes ces questions, ce serait formidable. Merci beaucoup.
Lance. Vivian, t'as remis ton micro, vas-y.
Rapidement, je ne peux que partager le constat. Je pense que le PNAC, en l'état, il est la collection des contributions qu'ont bien voulu faire les acteurs qui ont répondu à la dynamique, y compris au sein de l'État. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai été positivement surpris par rapport à la dynamique PNAC 2 de la mobilisation d'une partie de ces acteurs. Il y avait des absents. Et effectivement, alors je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que le ministère de la Défense préfère travailler dans son coin en considérant que c'est des affaires importantes? Voilà, je pense qu'il y aurait peut-être d'autres acteurs à inviter pour en parler, comme Julia Tasseux ou comme des experts de ce sujet-là. Du côté des politiques régaliennes, il y a quand même eu un gros travail et des contributions sur les politiques de sécurité civile et les acteurs de la sécurité civile. Donc, ça, je souligne quand même, il y a des choses là-dessus. Et sur la diplomatie, c'est peut-être que le sujet adaptation est un sujet moins nouveau, notamment pour les acteurs du développement et l'action de l'AFD ou autre. Donc c'est vrai que peut-être ça a été moins intégré de ce fait-là. Et je crois que j'ai oublié une partie de tes questions, Alexandre, mais pour répondre à Edith rapidement, nous, on avait identifié à I4C ce besoin d'accompagnement. Alors, au sens large, le mot accompagnement, il veut tout dire et il veut rien dire. On avait cartographié, je vais remettre le visuel, ça répondra à tous les besoins de premier ordre qui nous semblaient. Enfin, le constat qu'on faisait de ce dont il y avait vraiment besoin pour que les acteurs qui vont devoir s'adapter et se préparer se posent les bonnes questions et les débats, animent les débats, arrivent à faire des choix d'adaptation puis à les mettre en œuvre. On avait cartographié tout un tas de rôles qui aujourd'hui sont alors parfois en partie couverts méthodologiquement, mais pas suffisamment en termes de nombre de personnes disponibles. On avait fait un petit comparatif de ce qui existait dans d'autres pays. En trouvant des modèles très intéressants en Écosse, en Angleterre, au Canada notamment. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a écrit. Il y a eu des discussions assez structurantes avec les différents opérateurs de l'État pour proposer ce que pourrait être un tel service public de l'adaptation. Au final, ce qui a été retenu, qui s'appelle la mission adaptation, et ce qu'il est possible de faire à moyen constant, c'est-à-dire mettre bout à bout des offres déjà existantes de ces opérateurs-là, c'est probablement mieux que rien. Ça paraît insuffisant, c'est sûr. Après, il y a localement, dans certains territoires, il y a des exemples intéressants de collectivités qui s'organisent et qui mutualisent des moyens pour répondre à une partie de ces besoins-là. Donc voilà, il n'y a peut-être pas que le régalien, le national, même si y a des manques de ce point de vue-là. Et je
Mais
laisse l'assurance pour je laisse Gonéry pour l'assurance.
on peut ajouter que la mission adaptation, elle a été lancée deux fois. Une fois il y a 7 mois par Christophe Béchu et de nouveau il y a quelques jours par Agnès Pannier-Runacher, comme si c'était un truc nouveau.
Non, mais c'est comme les fusées, parfois il faut repousser le lancement. Gonéry?
Dire un mot là sur en fait ce plan là, donc vraisemblablement ça va être des décrets si j'ai bien compris. Et en fait, c'est dommage que ce soit pas discuté à l'Assemblée nationale en fait, parce que voilà, c'est quand même plus solide d'avoir quelque chose qui est discuté dans l'Assemblée nationale et qui résulte dans une loi que des décrets. Et puis en fait, quand on voit par exemple ce qui est devenu la stratégie nationale de la biodiversité de décembre 2023, ben, il y a tout lieu d'être inquiet parce que vous lisez les mesures de la stratégie nationale de la biodiversité qui n'étaient déjà pas très ambitieuses. Hein. C'était plutôt des mesures qu'on voulait mettre en œuvre depuis très très longtemps. Ben, en fait, on voit bien que ça ne va pas se faire, en fait. Hein. Voilà, le plan Ecophyto 2030, je crois qu'il ne va pas être appliqué, ou du moins pas comme on l'espérait. Donc, du coup, je pense vraiment qu'il y a vraiment un sujet qui est. Ben, essayons quand même d'en débattre à l'Assemblée, même si c'est risqué. Ouais, c'est pas plus risqué que de débattre d'une nouvelle loi sur l'immigration, je pense. Voilà. Ça, c'est une opinion personnelle. Voilà. Maintenant, sur le truc sur les assurances, alors effectivement, ce rapport, en fait, il était motivé par le déséquilibre, en fait, en fait, du système CatNat, en fait, du système d'indemnisation des catastrophes naturelles en France. Donc, c'est un système public, en fait, enfin, privé et public. Vous avez un réassureur public qui est la Caisse centrale de réassurance qui intervient lorsque vous avez une déclaration CatNat. Et ce système-là, en fait, est en déficit depuis des années. Et il est en déficit, en fait, on a vu clairement dans les comptes des assureurs que c'est lié au réchauffement climatique et principalement lié au retrait gonflement des argiles dans les comptes qu'on a pu consulter. Si on regardait maintenant, je pense qu'on commencerait à voir les effets, en fait, des inondations par ruissellement, donc tout ce qui s'est passé, en fait, dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment, entre autres. Voilà, donc les risques associés, bah en fait, c'est le premier, c'est que bah, effectivement, bah, les coûts de l'assurance montent, en fait. C'est qu'il y a des assureurs qui s'éclipsent, que du coup, il y a des gens qui ont du mal à s'assurer. Et puis, bah, en fait, que les assureurs qui s'éclipsent font que ceux qui ne s'éclipsent pas sont perdants, et puis que du coup, ils aient des comptes dégradés, et en fait, que tout le système, en fait, bah, devienne toxique, quoi, en fait. Donc pour éviter ça. En fait, c'est sûr qu'il faut redresser financièrement dans un premier temps la Caisse centrale de réassurance, et c'est l'objet de la réhausse de la surprime CatNat, mais il faut aussi prévenir les pratiques toxiques de certains assureurs qui peuvent être tentés en fait, de s'éclipser des zones à risque via des politiques tarifaires, en gros en mettant des tarifs exorbitants pour les zones qu'ils estiment être les plus à risque. Pour faire ça, en fait, vous avez besoin d'objectiver quelles sont les pratiques des assureurs. Et c'est pour ça que la Caisse centrale de réassurance en fait, est en train de mettre en place un observatoire de la réassurance. Nous, on recommandait de faire une opération, en fait, tout simplement de name and shame, de dire qui est en train de s'évader, et puis au pire, en fait, de faire fluctuer la taxe qui s'exerce sur la surprime CatNat pour, en fait, un système de bonus-malus où les assureurs, en fait, sont plus capables, enfin, en gros, ça annihilerait leur intérêt de s'évader. Après, il y a tout l'accompagnement qui va avec. Et c'est là qu'on a besoin, effectivement, d'un fonds de prévention des risques naturels, l'ex-fonds Barnier, qui soit bien financé. C'est pour ça qu'on espérait, effectivement, que l'essentiel de la nouvelle recette fiscale, donc les 250 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure, aillent dans un fonds qui soit le fonds Barnier ou quelque chose de similaire. En fait, c'est pour en fait, aider à l'adaptation, notamment pour bah, les personnes les plus défavorisées qui sont en fait, bah, voilà, dans des zones inondables, des choses comme ça, et qui n'ont pas du tout les moyens de mettre en place des mesures de prévention, d'adaptation, etc. Donc il y a tout un volet en fait, d'accompagnement pour ça. Mais je dirais, les risques pour l'assurance du réchauffement climatique, ils sont déjà bien identifiés, hein. On en trouve un très bon résumé dans le rapport du GIEC de 1995. Voilà. Et donc, voilà, on s'en préoccupe aujourd'hui, mais c'est quelque chose quand même qu'on aurait pu voir venir un peu plus vite. Donc en deux mots, c'était ça notre rapport. Voilà. Mais après, c'est possible d'en discuter plus longtemps, évidemment.
Merci Gunnery. Delphine, tu as relevé la main, c'est ça? Et après,
Oui,
on ira à la conclusion.
une question pour regarder un peu plus large que nos frontières. Est-ce qu'il y a des exemples inspirants sur le plan international? Alors, soit sur tout, c'est-à-dire sur une stratégie complète, soit sur une partie. Par exemple, en matière de sécurité civile, moi, je regarde beaucoup ce que fait l'Europe du Nord en termes d'information et de sensibilisation des citoyens. Voilà, est-ce que vous auriez des exemples à signaler, à regarder?
Est-ce que je peux y aller? Voilà. Donc moi, enfin, déjà, ça vaut le coup de regarder qu'est-ce que c'est une adaptation réussie au sens des rapports du GIEC. En fait, c'est assez précis, hein. Dans les villes, bah, c'est la végétalisation des villes, c'est faire de réorganiser l'espace public, voilà, notamment pour les mobilités actives, pour la végétalisation, etc. Dans l'agriculture, c'est l'agroécologie, c'est l'agroforesterie, c'est les options orientées de demande, donc qui, en fait, autrement dit, signifie qu'il y a un régime alimentaire et puis il y a un et puis en fait. Un bilan et importation-exportation qui est cohérent avec la politique agricole, quoi. Et puis beaucoup de choses en fait qui ressemblent à de la sobriété sans qu'on prononce vraiment le mot en fait. Donc il y a comme quelque chose qui est dessiné, qui est assez clair, qui est de l'adaptation. Alors après, où est-ce qu'on en trouve des bons exemples? En fait, je pense il y a nulle part où on trouve un exemple où tout est mis en œuvre. Mais c'est vrai que quand on va aux Pays-Bas, quand on regarde le côtier, c'est quand même bien anticipé. Ils ne font pas tout de manière parfaite. Hein. Il y a beaucoup de choses en fait, où ils disent We work with nature, mais en fait, ils bougent beaucoup de sédiments et ça ressemble plutôt à de la grosse ingénierie. Mais enfin, quand même, ils anticipent et ils savent en fait où ils vont, même avec 2 mètres d'élévation au niveau de la mer. Il y a sur l'urbanisme, aux Pays-Bas, c'est pareil, c'est quand même bien fait, quoi. Donc moi, c'est vrai que du côté des Pays-Bas, je vois des choses intéressantes sur ces deux sujets-là et peut-être que Juliette et vivants donneront d'autres exemples.
Vivian, Juliette,
Juliette.
vas-y,
Non,
Juliette.
non, non, je n'ai pas d'exemple là qui me viennent comme ça à l'esprit.
OK, Vivian.
Je pense qu'effectivement, d'exemples globaux, enfin, tout sujet confondu, il n'y en a pas. Je pense qu'il y a pas mal à apprendre d'autres pays, cas par cas, bout de sujet par bout de sujet. Il y a plusieurs. Enfin, voilà, j'avais aussi les Pays-Bas en tête sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a aussi à apprendre des limites de certains modèles. Je pense que le cas espagnol sur l'irrigation, a pas mal à nous apprendre, par exemple. Et dans le même type d'exemple, plutôt négatif, même si je tourne du coup la question. On citait tout à l'heure le cas du Royaume-Uni. C'est un pays où il y a des trajectoires, des obligations de faire des analyses de vulnérabilité depuis très longtemps. Ils connaissent beaucoup mieux que nous leurs risques et leurs vulnérabilités. Il y a déjà eu trois exercices nationaux très poussés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu les débats, qu'ils ont fait les arbitrages et qu'ils ont mis les moyens pour l'adaptation. Donc ça montre aussi si on s'arrête au stade 1 du PNAC, où est-ce qu'on risque de se retrouver bloqué? Donc voilà. Et après, je pense que, alors, je ne sais pas s'il y a des exemples nationaux, par contre, on trouve des exemples locaux qui peuvent être extrêmement intéressants sur certaines villes, sur certains territoires particuliers, que ce soit des cas littoraux, des cas urbains, et donc un peu au cas par cas, sujet par sujet, on en trouve.
C'est ce que je voulais ajouter, en fait, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'expérimentations qui commencent à devenir des grosses expérimentations. Par exemple, bah, sur le côtier, ce qui est mené par le Conservatoire du Littoral, par exemple les relocalisations à Quiberville en Seine-Maritime ou des choses comme ça. Voilà, il y a eu des nombreuses expérimentations, le projet Adapto du Conservatoire du Littoral, ou alors en fait ce qui commence à se faire dans des villes, bah, tout simplement comme Paris, etc., qui en fait à ce stade sont pas encore à l'échelle, mais qui, si c'est généralisé, si ça enclenche un mouvement. Ben en fait, ça va tout à fait dans la bonne direction, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi partir de ces exemples nationaux.
À l'échelle européenne, toutes les villes, enfin pas toutes, mais pas mal des villes accompagnées dans le cadre de la mission adaptation européenne, cette fois-ci, peuvent
Effectivement.
donner pas mal de bons
Et
exemples.
des sujets sur lesquels il y a un risque, effectivement, de gentrification, là, c'est ce qui est signalé dans le chat, hein. Il y a un rapport extrêmement intéressant qui est sorti là, du CNLE. C'est le Conseil national sur en fait, les inégalités, la pauvreté, etc. Et en fait, donc, ce rapport, en fait, il étudie très précisément, en fait, comment on fait cette transition juste, du point de vue, en fait, en visant les personnes, les 14% de personnes en France qui sont sous le seuil de pauvreté, et les 27% de personnes qui ne sont pas, en fait, qui ont des revenus, en fait, qui sont extrêmement contraints. En fait, une fois que vous avez enlevé les dépenses contraintes, ils n'ont plus de marge d'action. Donc, ce sont des gens, en fait, qui ont très peur de la transition. Et en fait, ne pas faire la transition serait très injuste pour eux parce que ce sont les premières victimes. Mais d'un autre côté, il faut aussi s'assurer qu'elles ne se fassent pas à leur détriment. Et donc, il y a un rapport du CNLE. Ça, c'est vraiment quelqu'un, à mon avis, qu'il faut auditionner, en fait. Donc, c'est Nicolas Duvou, là, qui est le président de ce conseil.
Pour conclure un peu sur la question de Delphine, je dirais qu'en tout cas en France, les exemples qu'on cite d'adaptation, alors réussie ou pas, je ne sais pas, mais de démarche d'adaptation, comme tu disais, Quiberville, Gonéry, et puis je pourrais en citer quelques autres, c'est un peu toujours les mêmes, quoi, aujourd'hui. Voilà, et on aimerait avoir d'autres choses à dire, mais malheureusement, ça reste quand même encore très balbutiant.
Ok, on s'était donné jusqu'à 22 h, on a un petit peu débordé. Je vous remercie d'être resté avec toutes et tous. Est-ce que en conclusion, vous avez un espace, une lecture à nous conseiller, une ressource à suivre, un atelier à faire? Je sais ce que tu vas répondre, Juliette, là-dessus. Ou peut-être un endroit, un réseau sur lequel vous lire, sur lequel voilà, vous publiez. Juliette, je vais faire la pub pour toi. Il faut que, franchement, j'ai vu cet après-midi les ateliers de l'adaptation, c'est extrêmement puissant. Je vous le recommande. Vivian, où est-ce qu'on te lit? Sur les rapports d'I4C, sur LinkedIn?
La newsletter d'i4C, LinkedIn, et puis oui, principalement.
Super. Gonéry? Dans le rapport du GIEC, c'est ça?
Pour être tout à fait honnête, vous ne me direz pas beaucoup dans les prochaines semaines parce que je suis un peu débordé. Là, il y a une réunion de cadrage du rapport du GIEC, du 7e. Voilà, enfin, il y a plein de choses, le Conseil pour le climat et tout. Mais bon, en général, effectivement, je suis sur LinkedIn et puis sur Blue Sky et puis Mastodon. Voilà.
D'accord, très
Mais bon,
clair.
je ne publierai pas beaucoup. Je dirais, un truc à lire vraiment, je pense, c'est ce rapport du CNLE, là. Je pense que c'est vraiment extrêmement important parce qu'en fait, là, on entre dans le concret, dans la question de l'équité et de la justice, en fait, qui est quand même un truc dont on parle beaucoup, mais où on manque de concret.
Eh bien, merci à tous les trois. L'enregistrement de cette audition sera rendu public sur le site de Génération Écologie. On le fera savoir sur les réseaux. Vous étiez plus de 100, plus de 120 à nous suivre pendant une très bonne partie de la soirée. On aurait pu faire quasiment tout un feuilleton, hein. Là, c'est ça. Vous avez ouvert beaucoup de pistes de réflexion et je vous en remercie au nom de Génération Écologie. Très bonne soirée à toutes et à tous
Merci.
et à la prochaine. Merci.
Merci.
Merci
Au
beaucoup.
revoir.